Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
$2,500,000 étudiants en France, c'est un chiffre qui est en constante augmentation depuis 2012, tout comme hélas le nombre d'étudiants qui vivent aux frontières de la pauvreté, autour de 1 sur 5, 19,4% pour être précis. Beaucoup d'étudiants travaillent toute l'année pour payer leurs études, d'autres font des jobs d'été qui financent vacances, frais de scolarité et comblent le manque. Les revues étudiantes et les sites spécialisés ne manquent pas de conseils et de bons trucs pour trouver le meilleur des boulots d'étudiants. Parmi ceux que j'ai consultés, étaleur de crème solaire m'a semblé le plus original. C'est une offre d'emploi très sérieuse, proposée par l'Office du tourisme des Sables d'Olonne et inspirée par les crimeurs australiens. Ainsi, les étaleurs de crème passent-ils donc leur journée à enduire la peau des vacanciers de produits pour les sensibiliser aux méfaits d'une surexposition au soleil? Ils gagnent 850 euros par mois, un salaire plus ou moins décent selon la superficie des bronzeurs à tartiner. Dans un autre genre, les étudiants peuvent aussi devenir, le temps d'un été, ramasseurs de cannabis. Un peu comme les vendanges ou la cueillette des fraises, ce job est à pourvoir en Californie. Il associe les avantages d'un stage linguistique à ceux d'une véritable détente estivale. 80 euros par jour, gîte et couvert compris. Dans un registre beaucoup moins amusant, de nombreux étudiants pauvres testent régulièrement des médicaments avec les risques que l'on sait désormais. D'autres font du téléphone rose, de l'internet sexy ou des passes sélectives. On trouve aussi des jobs de dating assistant qui consistent à draguer sur le net à la place des gens qui font un vrai travail. Il y a aussi testeurs de maillots de bain, faiseurs ou faiseuses de tresses, distributeurs d'annuaires, chefs de manège, ramasseurs de crottes de chiens, testeurs de mauvaises odeurs, nettoyeurs de plage, conducteurs de petits trains touristiques et j'en passe. Tout de suite donc, c'est le moment de chercher pour les étudiants et de vous informer tous. Job d'été, boulot d'étudiant, trois histoires édifiantes racontées par Delphine Dilly qui elle-même en connaît un rayon sur les boulots d'étudiants. Une émission diffusée pour la première fois le 11 mai 2016. À écouter ou à réécouter.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Des jobs étudiants, j'en ai eu des tonnes. J'avais 16 ans quand j'ai eu mon premier petit boulot. Je devais surveiller un magasin et vendre des antiquités. Avec l'argent que j'ai gagné, je me suis acheté mon premier lecteur de CD portable. C'était un Discman dont j'étais tellement fière. Et je me le suis fait voler 15 jours plus tard. Léa, elle était étudiante en psychologie quand elle a eu son premier job. On l'a embauchée à l'hôpital où elle signait des contrats à la journée. Elle voulait, dit-elle, avoir un premier contact avec l'humain.
C'était l'été dernier. C'était mon premier boulot avec des réelles conditions de travail, des horaires fixes, un salaire. C'était une entreprise qui s'occupait du ménage et de la restauration à l'hôpital. J'ai suivi une dame qui, elle, faisait ce métier depuis plusieurs années. Je l'ai observée. On m'a expliqué le protocole de nettoyage, le nombre de produits qu'il fallait utiliser, avec des gants, sans gants. Le nombre de lingettes précisément qu'il fallait utiliser parce que si on dépassait, on était sanctionné. Voilà, le protocole, parce qu'il fallait en fait cocher des cases sur une feuille en fonction du nombre de chambres qu'on avait nettoyées dans la journée. Donc j'essayais de noter vite fait sur des morceaux de papier ce qui se passait, comment je devais réagir face à telle ou telle situation. Mais elle, j'avais l'impression qu'elle rencontrait beaucoup de jeunes qui passaient un peu en coup de vent pour faire ce job d'étudiant et que du coup, elle prêtait plus réellement attention à cette mini-formation. J'ai vraiment pas trouvé la première journée super, mais je me suis dit qu'il fallait que j'y retourne et que je me force un peu aussi à faire des choses contraignantes, que voilà, j'avais accepté ce boulot et que c'était sûrement une chance, que je prenais la place peut-être de quelqu'un et qu'il fallait que j'assume aussi jusqu'au bout. Le deuxième jour, alors j'ai passé ma journée à nettoyer des chambres, des toilettes, sans oublier les plafonds, les murs, les rambardes. Moi, j'étais là pour avoir un contact avec l'humain. Mais j'ai très vite déchanté parce qu'au final, on était plus ou moins chronométrés pour faire les chambres. et que le discours et le contact avec l'humain n'étaient pas vraiment le bienvenu. On est là, on dit bonjour, merci, au revoir, mais il n'y a pas de comment ça va, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? J'étais juste une femme de ménage parmi tant d'autres, et le patient restait un malade de la chambre numéro tant, mais je ne connaissais pas leur prénom, je ne savais pas pourquoi ils étaient là. Le troisième jour, je commençais à 6h, donc je suis arrivée un petit peu en avance, mais il n'y avait personne dans le service, donc j'ai essayé de contacter la responsable, qui n'était pas disponible. Elle m'a rappelé une demi-heure après pour me dire que j'étais affectée au service des urgences. Donc c'est un tout autre milieu, où il y a vraiment l'urgence, en fait, c'est vraiment ça. Tout le monde court dans tous les sens, et je ne savais pas où me placer du tout, donc il y a quelqu'un qui est venu me déposer un protocole, avec des horaires et ce que je devais faire en fonction du temps qui m'était administré. Donc j'ai commencé à lire le protocole, qui me paraissait plutôt simple au départ. C'était nettoyer les différents box des urgences, les salles de soins, enfin les salles de radio, les salles d'examen. Et donc là, après, je suis allée à ma pause du déjeuner, mais j'ai vu qu'il y avait écrit « Aller chercher la clé numéro 56 », donc pendant ma pause du déjeuner, au bureau de sécurité qui se trouvait au rez-de-chaussée de l'hôpital. Donc je suis allée chercher cette clé 56 auprès de l'agent de sécurité et lui il m'a souhaité bonne chance. Et donc j'ai pas compris, j'ai rigolé, j'ai dit merci, je l'ai trouvé très gentil, très avenant. Et donc je suis remontée et je suis allée ouvrir la porte numéro 56 qui correspondait à la clé. Donc je suis rentrée dans la première pièce et la porte s'est refermée automatiquement. Donc petit moment d'effroi, elle se ferme à clé toute seule en fait. Donc je savais que sachant que j'avais la clé dans la main, personne pourrait venir m'ouvrir. J'ai nettoyé la première pièce, une pièce très blanche, plafond blanc, mur blanc, carrelage blanc. J'ai compris où j'étais à partir du moment où j'ai pu lire... sur d'immenses frigos blancs, réservoirs d'organes contenant tous les organes qu'on peut imaginer. Mais ça m'a pas empêché de nettoyer cette pièce, même si j'étais un petit peu angoissée, j'ai réussi à le faire. Puis ensuite, je suis rentrée dans la seconde pièce, appelée le salon d'accueil. Donc là, il y avait un canapé, deux chaises, une petite table basse et un bureau de médecin, et surtout une poubelle remplie de mouchoirs. J'ai vidé la poubelle et en regardant tous les mouchoirs, c'est vraiment là où je me suis sentie un peu dans une ambivalence entre quelqu'un qui vient de perdre un proche et moi qui suis là en tant que femme de ménage pour un job étudiant. Donc une fois que j'ai fini cette salle, il restait deux pièces fermées à clé. J'ai ouvert la première pièce, donc c'était une chambre mortuaire, donc tout était très sombre, éclairé avec des néons d'une couleur un peu bizarre. Oui, il faisait très froid, j'imagine que c'est pour conserver le corps à température optimale. Le lit était en acier, donc j'ai nettoyé le sol, le lit. Là, ça allait, j'avais réussi à me faire à l'idée que j'étais dans la morgue et que de passer par plusieurs salles, ça m'a permis à moi aussi de réussir à me ressaisir un petit peu. Donc dans la première salle où il y avait juste un lit, j'ai réussi à nettoyer comme une chambre lambda au final. Et quand j'ai ouvert la seconde chambre, donc c'est là que je suis tombée sur un lit en acier recouvert d'un grand drap blanc sous lequel se dessinait un corps. Donc une fois que j'ai eu constaté ça, je suis ressortie immédiatement. Parce que de un, ça a heurté ma sensibilité, c'est vrai. Et puis, j'ai pas voulu être prise par ma curiosité, en fait. J'ai pas voulu... soulever ce drap et me demander pourquoi la personne était là, ce qui lui arrivait, quel âge elle avait. Sur le coup, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment de la peur d'en voir trop, en fait. Et donc j'ai refermé la pièce directement sans en avoir rien fait. Je suis descendue voir ma responsable pour lui expliquer qu'il y avait un corps, que j'avais pas nettoyé cette pièce, que j'avais pas réussi. Et elle m'a dit qu'il fallait changer les draps de cette personne. Et qu'il fallait pas nettoyer la pièce où il y avait pas de corps, parce qu'elle avait déjà été aseptisée et qu'elle était dans l'attente d'un corps futur. Donc voilà, je lui ai dit que de toute façon, je le ferais pas. Donc après, c'était la fin de ma journée, je suis descendue voir mes collègues, je leur ai raconté un peu ma journée. Elles, ça les a fait doucement rire. Et elles m'ont expliqué que souvent, c'était les petites jeunes, les petites nouvelles qui étaient attribuées à ce poste, parce qu'elles, elles veulent pas le faire. Et que souvent, voilà, les gens qui étaient pas là depuis longtemps, ils se permettaient de les mettre à la morgue.
Le lendemain matin, Léa a rappelé l'hôpital, mais pour leur dire qu'elle était malade. Elle n'y est pas retournée. Finalement, elle a passé l'été avec ses parents. Moi, l'été de mes 19 ans, eh bien, je l'ai passé à faire du télémarketing. J'appelais des médecins sans relâche toute la journée pour les inviter à des conférences, des symposiums et leur proposer de découvrir de nouveaux produits pharmaceutiques. La plupart du temps, ils me raccrochaient au nez ou ils ne me rappelaient jamais. Célie était étudiante en art quand elle a postulé pour un job d'été.
J'avais une vingtaine d'années et je cherchais un boulot d'étudiant pour le mois de juillet. Et je suis tombée sur une annonce de coloriste. Et je me suis dit, coloriste, c'est sympa. Bon, étant étudiante à l'école Boulle, on a l'habitude de jongler avec les couleurs. Bon, je me suis dit, génial, ça doit être super sympa de travailler la couleur. Voilà, donc en fait, j'ai appelé. Je suis tombée sur une personne, voilà, qui m'a demandé si j'avais des notions de couleurs, si je savais distinguer tous les nuanciers de couleurs, avec toutes les subtilités que ça comporte. Je dis oui, que j'étais en mesure de répondre à ça. Donc on a convenu d'un rendez-vous, ça devait être en juin, et j'avais des jours d'essai, en fait, pour ce boulot. Je suis arrivée, évidemment, le matin. Une personne en blouse blanche, genre biologiste, chimiste, m'a ouvert la porte. Et en fait, je me suis retrouvée dans un laboratoire avec des paillasses, des becs benzène, enfin tout ça. Je me suis dit, bon, bah d'accord, pourquoi pas. Peut-être une manière nouvelle de traiter la couleur. On m'a installée derrière une paillasse avec une palette de couleurs, des pinceaux. Et j'avais des petites feuilles de silicone assez fines devant moi. On m'a demandé de faire des petits essais de couleurs, dans les couleurs chair, les couleurs de la peau. On m'a dit, voilà, tu te débrouilles, je te donne 2 heures, tu fais des essais, et ensuite je viens te voir. Tu peux t'inspirer de ta main, tu peux regarder un peu les différentes nuances qu'il y a. Il y a des bleus, il y a des violets, il y a des rouges, enfin bref, bon. Donc j'ai fait mes petits essais. C'était pas évident parce qu'il fallait peindre sur de la silicone. Au bout de 2 heures, elle est venue me voir, on a fait un petit point. Elle m'a dit oui, bon, d'accord, alors on va passer à l'étape d'après. J'ai pas vraiment posé de questions. Donc je découvrais, au fur et à mesure, elle m'a apporté des morceaux de doigts en silicone transparent qu'elle a posés en rang sur la paillasse. Et elle m'a dit, voilà, tu vas prendre ces échantillons de silicone qui représentent des doigts et tu vas essayer de mettre la couleur par l'intérieur. Et puis, tu vas essayer de regarder en même temps tes mains et de faire un contre-typage, c'est-à-dire de reproduire exactement, en fait, les nuances de ta main et de tes doigts. Bon, à ce moment-là, j'ai un peu levé le nez parce que j'étais un peu décontenancée. Et c'est là que j'ai vu autour de moi plein de gens en train d'ausculter des morceaux de doigts, des morceaux d'oreilles, bref, du corps humain, en silicone. Et donc, bon, là, j'ai un peu commencé à comprendre qu'il s'agissait finalement de faire des prothèses. J'étais un peu crédule et je me suis laissée embarquer dans cette histoire de coloriste qui, en fait, s'avérait être une société qui faisait des prothèses pour les gens qui avaient perdu des morceaux de doigts dans des distributeurs automatiques ou à l'époque, c'était distributeurs de cassettes VHS ou distributeurs d'argent. Visiblement, les gens se mettaient les doigts pour prendre leur billet dedans et donc se faisaient couper des morceaux de doigts. Donc voilà, j'ai vite compris. J'ai quand même fait l'essai parce que je me suis dit, bon, après tout, c'est une expérience, que les gens avaient l'air, de faire leur travail sérieusement tout en discutant et en parlant de la pluie et du beau temps. Je pensais que j'étais plutôt douée, mais en fait, pas
pas du tout parce que c'est extrêmement difficile. Les nuances, elles sont infimes. Par exemple, la pliure des doigts, eh ben, c'est violet. Rose foncé, eh ben, il faut mettre du bleu, il faut mettre des tons de marron. Le lendemain, après, ben, on a enchaîné à un autre étage du bâtiment dans lequel je me situais. Et là, ils appelaient ça l'atelier sculpture. Donc, il y avait une résine violette avec des oreilles posées sur le plan de travail. Il y avait l'oreille gauche et j'en ai déduit que je vais faire l'oreille droite. Donc, on m'a dit, tu te débrouilles, tu sculptes et tu essayes de reproduire l'autre oreille. Bon, j'avais des notions un peu de sculpture, mais bon, pas au point de refaire une oreille parfaite. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, il y avait des becs de benzène, il y avait des outils de sculpture, on pouvait gratter, on pouvait fondre. Je me suis aperçue que on devait être à peu près 3-4 candidats en fait pour ce poste, et qu'on était un peu disséminés dans le labo. Et on était tellement tous concentrés à bien faire, parce qu'au final, quand on est étudiant, eh ben, on a envie d'un boulot. Tout d'un coup, c'est comme un challenge, on se dit, je veux réussir, je veux y arriver. Tout en se disant, je sais pas si c'est le boulot que je veux faire cet été. Et en fait, tout le mois de juillet, il y avait la formation. Et le mois d'août, on nous envoyait aux États-Unis, dans les hôtels, pour faire les prothèses sur place. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, tu auras 15 personnes à recevoir dans la journée. Tu vas faire les morceaux de doigts et les oreilles en live, en regardant les clients. Et en fait, j'étais terrorisée. Je me suis dit, bon, c'est génial, partir aux États-Unis, mais peut-être pas comme ça. Je me suis dit, je sais pas, je suis pas prête à faire ça, comme ça, de but en blanc, et à réparer les morceaux de gens. Je vais pas pouvoir y arriver, c'est pas possible.
Célie a décidé de ne pas continuer le mois suivant. Elle n'est pas partie aux États-Unis. Moi, à 22 ans, j'y étais aux États-Unis. J'étais serveuse dans un restaurant français. Je faisais les brunchs et les week-ends. Au début, je ne savais pas ouvrir les bouteilles de vin. Je n'ai jamais réussi à faire les mousses de cappuccino, mais je vendais très bien les desserts. Et puis je suis partie au bout de 2 mois, après avoir dû recopier, je me souviens, 20 fois le menu sur la petite ardoise à la craie.
Je venais d'avoir mon bac et j'avais quitté la ville avec mon copain pour faire une fac de lettres à Toulouse. Et à un moment donné, il m'a quittée. Donc comme il était dans la même fac que moi et qu'il s'est mis tout de suite avec une autre fille, bah moi je pouvais plus aller à la fac en fait. J'étais terrassée par cette rupture. Et du coup, je suis retrouvée vraiment toute seule à Toulouse à rien faire. Donc mes parents j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit tu vas rentrer à la maison, mais par contre il est hors de question que tu restes toute l'année à rien faire quoi. Donc tu vas travailler. J'ai cherché un taf dans l'animation des enfants. Et en fait, je sais plus exactement, mais par miracle, il y a une annonce qui est apparue, c'était sur internet, je me souviens, en disant on cherche des animateurs pour enfants. Et il n'y avait pas du tout, c'était pas plus décrit que ça. Et voilà, donc j'ai passé l'entretien, donc c'était un centre de vacances en fait. Ils m'ont embauchée directement.
Julie a donc commencé son travail dans un club de vacances qui propose des séjours all inclusive, tout compris. Elle s'occupait des enfants.
J'étais excitée, j'étais contente. On était énormément dans ce club enfant. On devait être, je sais pas, une quarantaine d'animateurs. C'était assez la colo de vacances et tout. On vivait tous, en fait, sur le centre de vacances, dans des bungalows au fond du centre, tous ensemble. J'avais l'impression d'être un peu dans une télé-réalité, mais j'étais contente. Puis bon, j'allais m'occuper des enfants, donc je voulais donner un maximum. On était vraiment très sollicités, il y avait énormément de choses à faire avec les enfants. Donc je devais me lever super tôt, ils nous mettaient sur certaines missions. Et après, je faisais toute la journée mon travail avec l'enfant. Le soir, il fallait que je dîne avec les clients. Enfin, donc on bosse 35 heures par semaine sur le papier. Mais ça, c'est ce qui est dans notre contrat de travail. Mais quand on accepte de travailler dans ce type de structure, ils nous disent très rapidement que on accepte aussi les autres règles en fait qu'il y a dans ce type de structure, c'est-à-dire qu'on aime. On aime ce concept. Et parce qu'on l'aime, on va y participer. On n'est pas là que pour travailler. Enfin, on n'est pas là que pour travailler nos 35 heures. On va travailler en dehors de ces 35 heures. Mais on va le faire parce que c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Ils nous faisaient travailler, du coup, le matin, avant qu'on commence nos heures, moi, au club enfant. Par exemple, ils nous faisaient nous déguiser en... Justement, en vacances de Pâques, ils nous ont fait nous déguiser en lapin pour aller distribuer des petits œufs et des petites graines aux clients qui jouent au tennis le matin. Donc ça, c'était obligatoire, hein, c'était sur notre planning. Hein, on n'avait pas à tortiller, c'était le chef qui décidait, et voilà quoi. Et aussi, on se déguisait en robe de mariée aussi pour faire des entrées restaurant. C'est-à-dire, on se posait devant le restaurant pendant 2 heures avant d'aller manger, et on bougeait pas, on faisait des trucs, on souriait, voilà, comme des marionnettes, en fait, quand les clients venaient manger. Il y a tout ce qui est aussi bar, présence au bar avec les clients jusqu'à la fermeture du bar. C'est-à-dire, du moment où les clients vont se réveiller jusqu'à ce que les clients se couchent, il fallait qu'on soit sur la structure. Moi, à l'époque, j'étais très jeune, en fait. Du coup, j'étais très influençable et je pense, très sensible à l'autorité, quelle qu'elle soit. Mais j'avais quand même mon caractère. Et je me souviens qu'ils nous forçaient, par exemple, à faire chanter les enfants quand on allait d'un point A à un point B. Et je me souviens que ça m'agaçait, moi, parce que, par exemple, quand j'avais les petits et qu'ils sortaient de la sieste, pour les emmener à la plage, il fallait les faire chanter pour faire genre... c'est super, on s'éclate trop et tout, alors qu'on sort de la sieste, on n'est pas obligé de chanter. Et moi, j'avais pas fait chanter les enfants une fois. On avait traversé le club comme ça, pas dans le silence, mais sans chanter. Et en fait, il y avait des personnes qui étaient notamment les chefs de service, en fait, des autres, le mec du sport, le mec du bar, le mec du spa, etc. En fait, eux, ils surveillent les employés de tous les services. Et donc, il y en avait un, je me souviens, j'avais croisé le chef du sport, il m'avait regardé, son regard en disait long, et en fait, il était allé voir mon chef en disant « Julie n'a pas fait chanter les enfants ». Ils ont des talkie-walkie, hein. Ils se parlent entre eux comme ça. Et j'avais été convoquée dans son bureau à lui, et je lui avais dit « Bah écoute, ils étaient fatigués ». Non, mais on veut pas savoir s'ils sont fatigués ou quoi, hein. Tu fais chanter les enfants. Ok. Voilà. Donc ça, c'était le début de la... Descente aux enfers, en fait. On vivait là-bas, on faisait nos machines, on faisait tout là-bas. Donc en fait, on n'avait pas de vie. Et je me suis rendu compte que ma paye, qui était de 1300, enfin je sais pas, le SMIC, en fait pas du tout. Parce qu'on payait un loyer aussi, pour être logé, pour être nourri et pour être blanchi. Donc je devais toucher 600 euros, c'était ma paye. Quand les clients arrivaient par car, il fallait qu'on se mette tous à l'entrée de l'hôtel. On devait se mettre en haie d'honneur, les bras en l'air, et on faisait coucou comme ça. Et après, donc voilà, le bus arrêtait, les clients descendaient, et là on se mettait en haie, et ils passaient tous, et on disait bonjour. Tout le monde disait bonjour, donc tout le monde se faisait bonjour 4000 fois, puisqu'on était je sais pas combien d'employés, je sais pas combien de gens dans le bus. On disait bonjour, bienvenue, voilà. Et pareil quand ils partaient. C'était le même truc, au revoir, merci, hop, ils montaient dans le bus, on levait les bras, on faisait au revoir, comme ça, tous ensemble. Et un jour, j'étais en train de lever les bras avec mes collègues, et j'ai dit à mon collègue dans l'oreille, vas-y, j'en ai ras-le-bol de... Enfin, je faisais ouh en rigolant. En fait, j'étais en train de dire que c'était horrible, et que je trouvais ça ridicule, et que ça me saoulait de le faire, et que j'avais pas envie de faire ça. Sauf que malheureusement, le grand chef de la structure, donc c'était une divinité, hein, attention. Et lui m'a entendu en fait dire ça. On s'était jamais parlé, lui et moi. Et il m'a pas parlé d'ailleurs à ce moment-là. Il est juste allé voir mon chef. Donc du coup, j'ai été reçue par mon chef. Et il m'a dit, tu te rends pas compte de ce que t'as fait. Le chef, il veut pas que je te renouvelle le mois prochain. Il m'a mis dans un état, je me souviens, je pleurais, j'étais là, mais pardon. Je m'excusais en fait. Excusez-moi, pardon, enfin comme une petite fille en fait. Il m'a dit, non mais ça fait partie du truc à faire, t'as pas à discuter là-dessus, enfin tu sais très bien comment ça se passe, si tu veux travailler ici, c'est comme ça que ça se passe. Et puis en fait, au bout d'un moment, je suis devenue complètement parano surtout. C'est-à-dire que comme il y avait des gens qui nous observaient, qui venaient voir nos boss pour dire, voilà, j'avais plus confiance en personne. Et un soir... J'avais mangé avec des clients qui étaient très sympas. vraiment, et qui étaient des parents d'enfants dont je m'occupais, et qui m'avaient dit « Mais ça va et tout, Julie, t'as l'air fatiguée, t'as l'air stressée. » Et en fait, je sais pas, ce soir-là, ça devait être un soir de trop, enfin voilà, et je leur ai dit « Non, ouais, j'en peux plus, on doit faire ci, on doit faire ça, je suis obligée de manger avec les clients. » Alors eux, pour le coup, ça me faisait plaisir de manger avec eux, parce qu'il y avait vraiment des chouettes clients, mais... Et eux, ils hallucinaient complètement. Ils étaient là, non, non. Puis du coup, ils me posaient des questions. Mais vous êtes payé quand vous êtes devant le restaurant? Mais c'est parce que t'as... Ben voilà, plein de questions. Et là, j'ai commencé dans ma tête à ruminer le truc, à me dire, ça se trouve, c'était des clients mystères. Parce que tout le temps, nos chefs, ils nous disaient, bon, cette semaine, il y a trois clients mystères. Là, il va y avoir sûrement des clients mystères. Donc les clients mystères, c'est des gens qui viennent et qui évaluent en fait la structure. Et qui vont relever voilà, tout ce qui se passe. Et je me suis dit, mais c'est sûr, c'était des clients mystères, ils m'ont posé trop de questions bizarres. Alors, j'ai flippé, quoi. Le lendemain matin, je les ai retrouvés et je me suis effondrée en larmes en leur disant, non, mais il faut surtout pas dire ce que je vous ai dit à personne et tout. Enfin, vraiment, sinon je vais me faire virer. Et puis, à un moment donné, je leur ai dit, mais vous êtes pas des clients mystères? Ils m'ont dit, mais non, mais t'inquiète pas, on va le dire à personne, mais c'est pas normal ce que vous vivez ici. Enfin, c'est horrible. Et je me souviens que j'étais en larmes, quoi, j'étais en panique. Et là, franchement, ça a été... voilà, j'ai pété les plombs et je pouvais plus. Du coup, je pleurais tout le temps. Donc au bout d'un moment, je me suis mis en arrêt. Et j'ai appelé, au bout de mon arrêt, j'ai dit « je démissionne ». Je suis partie comme ça, quoi. J'ai dit au revoir à personne. Je suis partie. Pour moi, c'est devenu... j'ai lavé en horreur. J'en faisais des rêves, des cauchemars. Enfin, c'était trop. Children growing, women producing, men go working, some do steal. Everyone's got to make a living. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. C'était des jobs d'étudiants, un reportage de Delphine Dilly réalisé par Delphine Lemaire. Merci à Célie, Julie, Léa, Sabine, Stanislas, Stella, Antoine, Yasmina et Nathalie Hérault. Depuis la première diffusion de ce reportage, il y a 3 ans, sachez que Léa est maintenant en train de terminer son Master 2 de psychologie clinique et qu'elle sera diplômée en juillet du titre de psychologue, que Célie est devenue architecte d'intérieur et que Julie est retournée dans sa ville natale près de la mer et elle est désormais directrice d'un secteur jeune dans un centre socio-culturel. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Zoé Marie-Roulier, notre stagiaire, et c'est François Connac qui s'est occupé de cette rediffusion.